Silence et gâteau de miel, la sagesse du désert. Bonjour et bienvenue en ce mardi 9 mars, 21e jour de carême. Nous l'avons souvent entendu maintenant, notre vie et notre mort dépendent de notre prochain. Aujourd'hui, c'est encore une fois sur notre relation à l'autre, dans la capacité à le reconnaître comme un autre soi-même, et dans le rapport que nous avons à sa vocation personnelle, que nous interrogerons nos textes. Et nous prions avec le psaume 25. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Et nous entendons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, les versets 21 à 35. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Louange à toi, ô Christ. Rowan Williams, Silence et gâteau de miel, chapitre 3. Fuir, deuxième partie. Si nous essayons de traduire ce que nous avons dit hier en langage contemporain, nous pourrions dire que nous sommes encouragés à fuir la projection. Depuis les projections que les autres font sur nous, jusqu'aux projections que nous faisons sur les autres, en passant par nos propres attentes qui sont énormes vis-à-vis de nous-mêmes. En fait, si l'on cherche « fuite » dans un index de la littérature du désert, on trouvera toute une variété de choses à fuir. Et toutes ces choses ont à voir avec ce que nous appellerions la projection. Nous devons fuir les pensées, logismoi en grec, ce qui est un terme technique de la littérature monastique, désignant les enchaînements de fantasmes obsessionnels qui peuvent dominer notre vie intérieure. Fuir les statues et les honneurs, et fuir les discours. Ne prends pas de plaisir à la conversation des hommes, dit Macaire, avec, il nous semble, beaucoup d'austérité. Mais comme nous le verrons, fuir les mots est quelque chose de tout à fait central à toute cette démarche. Bien sûr, tout cela est lié au thème des chapitres précédents. Notre vie dépend de notre prochain, et ainsi il nous faut nous retirer de tout ce qui peut contribuer à l'emprisonner, ce qui signifie aussi examiner sans indulgence tout ce que nous lui disons et tout ce que nous disons de lui. La vocation de chacun est personnelle et unique, et c'est pourquoi chacun doit avoir l'espace de grandir comme Dieu le veut, plutôt que comme nous le voudrions. Fuir, c'est garder ce regard critique et vigilant sur ce que nous disons, garder cette distance pleine de révérence par rapport au lieu intime du cœur et de la conscience de l'autre. Et une de ces formes spécifiques de fuite qui devrait nous donner beaucoup à penser et qui revient dans de nombreux récits, a à voir avec la manière dont les autres estiment que nous pourrions et devrions nous rendre utiles pour l'Église. L'ordination est fréquemment présentée comme un fardeau et une tentation qui doit être évitée. Lorsque Jean Cassien, dans une formule célèbre, conseille aux moines de fuir les femmes et les évêques, il a à l'esprit le danger le plus évident qui découle de la proximité avec un évêque. On pourrait bien finir par se retrouver ministre ordonné. Occasionnellement, il arrive qu'un moine du désert soit ordonné, contre sa volonté ou au mépris de son bon sens. Théodore de Fermé fut ainsi fait diacre. Mais il évita avec beaucoup de constance d'exercer son ministère, en s'enfuyant s'il le fallait. Encore et toujours, les anciens le ramenaient à Cété en disant « N'abandonne pas ton rôle de diacre !» Abba Théodore leur dit « Laissez-moi prier Dieu, afin qu'il me dise avec certitude si je dois assumer publiquement le rôle de diacre dans la liturgie. » Et il s'adressa à Dieu en disant « Si c'est ta volonté que je prenne cette place, donne-moi la certitude. » Une colonne de feu lui apparut. Elle s'étendait de la terre au ciel, et une voix lui dit « Si tu peux devenir semblable à cette colonne de feu, va et sois un diacre. » Alors il décida de ne pas le faire. Il alla à l'église, et ses frères s'inclinèrent devant lui en disant « Si tu ne veux pas être diacre, au moins administre le calice. » Mais il refusa et dit « Si vous ne me laissez pas tranquille, je vais partir d'ici pour de bon. » Alors, ils le laissèrent en paix. Il est tentant au premier abord de dire que ces personnages évitaient de prendre des responsabilités ou mettaient la barre beaucoup trop haut pour justifier leur refus d'assumer ce genre de fonction. Mais il vaudrait mieux se demander pour quelles raisons exactement ils voyaient l'ordination sous un jour aussi négatif. Théodore la considère comme une colonne de feu unissant le ciel et la terre, et on pourrait aussi rappeler un récit saisissant sur Abba Joseph qui lève vers le ciel ses mains ruisselantes de feu. La vocation du moine, c'est de devenir feu. Alors, quel est le problème de Théodore? Je soupçonne que c'est l'identification de cet appel personnel à devenir feu avec un rôle spécifique et visible dans l'Église. Comme si l'ordination représentait une sorte de tentative de maîtriser ce qui n'est atteignable que par toute une vie de prière et de vigilance. Pour Théodore, être diacre signifierait s'approprier une sorte de plénitude spirituelle à laquelle il serait extrêmement arrogant de prétendre pour soi-même. Il est tout à fait juste que l'Église ne nous encourage pas à penser en ces termes toutes nos luttes intérieures vis-à-vis de la vocation au ministère ordonné. Mais cette histoire devrait cependant mettre mal à l'aise tous les ministres ordonnés, au moins parce qu'elle indique clairement que l'exercice d'un rôle public dans le culte de l'Église implique de se tenir dans la fournaise brûlante de l'action divine qui relie le ciel et la terre. Si nous ne parvenons pas à comprendre qu'une telle place est dangereuse, c'est que nous avons manqué quelque chose de fondamental. Nous prions. Seigneur, nous voici devant toi, nous qui ne sommes pas meilleurs que les autres, et qui pourtant désirons te rencontrer, te parler face à face, comme un ami parle à son ami. Nous avons conscience de nos insuffisances et de nos obscurités, mais nous savons aussi que tu les connais, toi qui sais bien de quoi nous sommes faits. Seigneur, guéris-nous, même si cela fait mal comme une brûlure. Recrée-nous à ta ressemblance pour que tout homme qui nous voit puisse reconnaître ton visage. Seigneur, brise notre carapace, dégage ce qu'il y a de meilleur en nous, même si c'est enfoui au plus profond de nous-mêmes, et le feu que tu as allumé pourra incendier le monde. Amen.